à l'Anody RPM, c'est Nicolas Bellemare qui est là cet après-midi. Surprise, ce n'est pas Michel Arnois, ni Claude Fournel. Au cours de la prochaine heure, évidemment, on parle d'actualité, ce qui se passe de bon et de moins bon dans Lanaudière. D'abord, à la ville de Repentigny, on a investi plus de 50 millions de dollars pour des travaux de réflexion, de son travaux, de travaux routiers et des infrastructures. On en parle avec Nicolas Dufour, maire de Repentigny. C'est Régent Turgeon qui s'est entretenu avec lui. On parle aussi du plan d'action en santé et bien-être des hommes en vigueur depuis 2017 qui ne sera pas reconduit avec la fondatrice et directrice générale de l'Action des nouvelles conjointe et nouveau conjoint du Québec, Lise Bilodeau. Jacques Plante sera là. On va parler du rapport de la vérificatrice générale dans le dossier des CF-35. François Saint-Louis aussi.
RPM, politique provinciale.
D'ailleurs, c'est de ce côté qu'on s'en va en politique provinciale alors que le député de Joliette à l'Assemblée nationale, François Saint-Louis, a fait son bilan de fin de session. Il a rencontré François Morin ce matin.
Personnellement, comme député de Joliette, mais comme membre de la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, je peux vous dire que la dernière année, pour moi, a été très occupée. J'ai d'ailleurs avec moi une copie du rapport qui a été déposé il y a à peine 2 semaines. 56 recommandations, un travail transpartisan qui a été reconnu par tous nos pairs. Une expérience incroyable pour moi et pour mes collègues, assurément. Donc, je vous dirais que notre souhait, on était 12 députés sur cette commission-là, notre souhait, c'est que ce soit les bases pour la suite des choses, parce que on va se le dire, hein, les écrans, c'est problématique. Pas juste chez nos enfants, même moi, j'ai réalisé à travers ce travail-là, cet exercice-là, que moi aussi, j'avais un problème de consommation d'écran.
Bon, on a une dépendance, tout le monde, face aux écrans, parce que avec cette technologie-là qu'on doit travailler.
Absolument. Puis notre téléphone, maintenant, c'est un téléphone, c'est notre c'est nos souvenirs de voyage, nos photos, notre discographie, c'est nos courriels.
C'est notre agenda.
Et voilà, donc l'extension, moi je dis souvent que c'est l'extension de nous-mêmes, puis il y a une dépendance, une grande dépendance.
C'était quand même bien accepté, ce rapport-là.
Très, très, très bien reçu de part et d'autre. Il y a eu un rapport intérimaire à la mi-avril qui a résulté en une directive ministérielle de la part de mon collègue Bernard Drainville pour l'interdiction des cellulaires à l'école à partir de septembre prochain. La commission ayant été itinérante, on a visité 17 écoles dont certaines avaient déjà pris la décision d'éliminer le cellulaire. Les élèves nous l'ont dit, des élèves de secondaire 5 qui avaient vécu les deux régimes avec le cellulaire et sans le cellulaire, qui étaient à préparer leur bal de finissant, nous ont confié que la proximité, la socialisation était de retour.
Si on parle de certains autres dossiers qui ont touché la région pas mal, c'est au niveau des relations de travail, au niveau des compressions en santé, notamment les syndicats du CIS-Lanaudière ont organisé une campagne « Je dénonce » pour tenter de comprendre, pour avoir des explications sur les compressions budgétaires qui sont imposées par Santé Québec, mais appliquées par le CIS. Et on attend encore des réponses. Là, c'est vraiment pas évident là, pour, les relations de travail, pour les services également aux citoyens.
Ben, si on recule le film un peu, faut comprendre que ce qui a été demandé par le ministre via Santé Québec, ce ne sont pas des compressions autant que les respects de budget déjà octroyés. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. Si on ramène ça à un niveau au niveau personnel, difficile de dépenser plus que qu'est-ce qu'on gagne. Donc, lorsque un CIS dépose un budget en début d'année, le souhait du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement.
Mais il y a quand même des services directs qui sont impactés. Quand on ne comble pas des postes qui sont ouverts, en bout de ligne, il y a des gens qui n'auront pas de service.
En fait, je pense qu'il faut être prudent. Il y a eu des changements. Il y a eu des postes qui ont été abolis, mais il y a eu création de postes aussi. Donc, il faut regarder, je pense, la ligne du bas. L'objectif étant d'avoir des postes à temps plein. Je suis pas à la gestion des ressources humaines du CIS, donc je m'avancerai pas plus que ça. Mais comme je vous dis, je pense que appel à la prudence. C'est pas je pense pas qu'il y a des gens qui soient assis à la maison à attendre qu'on les appelle.
Et au niveau des CPE, ça a été un dossier qui a fait l'actualité pas mal dans la région. On l'a accepté, mais de justesse, l'entente de principe. Il y aura encore du travail, il y aura encore du dialogue à faire pour tenter d'améliorer les conditions de travail là, des salariés en CPE.
Écoutez, je pense qu'il y a du rattrapage à faire dans différents secteurs d'activité. On l'a vu en éducation, on l'a vu en santé. Dans la dernière année, on s'est entendu justement avec les enseignants puis avec les syndicats de la santé. Les CPE, vous avez raison, il y a un certain rattrapage. Moi, je pense qu'on a fait un bout de chemin. On verra pour la suite des choses.
Quelles seront les priorités de François Saint-Louis pour la prochaine année et demie avant justement la tenue du scrutin?
Ben, écoutez, ça, les mêmes que depuis octobre 2022. Accompagner les parties prenantes de la circonscription, s'assurer que les dossiers dans le Grand Joliette avancent, travailler main dans la main avec les municipalités, avec la MRC. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de détresse dans notre région, M. Morin, donc très fier de mon équipe qui accompagne ces gens-là au quotidien, que ce soit pour au niveau de la santé, pour les médecins, que ce soit pour le logement abordable. Donc, on est là pour accompagner la population, donc au quotidien. Sans quoi, je vous dirais qu'il y a des belles choses qui avancent. On a la Maison des aînés qui est en construction, la plus grande au Québec, d'un projet de 220 millions. Donc, un investissement, je me souviens pas, moi... Vous me direz, je suis encore jeune, je n'ai que 58 ans, mais je me souviens pas d'un investissement aussi important en santé à Joliette.
Ben, faut quand même pas s'en cacher, c'est un investissement qui était nécessaire parce que on va regrouper là, les gens qui étaient à Saint-Eugène et à Parfilia-Ferland au même endroit parce que les deux autres bâtiments sont vétustes, là.
Tout à fait, et puis je vous dirais que beaucoup de nos infrastructures, si on parle de nos écoles, des hôpitaux au Québec, datent pas mal de la même époque, donc pour moi, l'hôpital à Joliette, c'est une priorité.
Au niveau de puisqu'on se parle des écoles, compte tenu du contexte budgétaire actuel, il y a certains projets qui étaient sur la table, qui vont demeurer sur la table un certain temps, mais il faut peut-être avoir un peu d'espoir que ça se réalise.
Tout à fait. Ces projets-là ont été mis sur pause, ils n'ont pas été abandonnés, pas du tout, loin de là. Il faut quand même se souvenir que en 2018 et aujourd'hui, le budget en éducation est passé de 15 milliards à 23 milliards. Puis dans le PQI, les investissements dans nos infrastructures, que ce soit des rénovations, de nouvelles écoles ou des écoles modulaires, on est passé de 16 milliards à 23,5. Donc, quand on est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait 60 écoles avaient été construites par le gouvernement libéral. De 2019 à 2024, on parle de 150 écoles. Donc, on travaille fort, mais on va continuer.
François Saint-Louis, député de Joliette à l'Assemblée nationale, était de passage ce matin en studio pour faire le bilan de fin de session avec François Morin. Dans un instant, à la Naudière PM, on parle du plan d'action en santé et bien-être des hommes en vigueur depuis 2017 qui ne sera pas reconduit.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ah ben quand même, pour revenir dans la Naudière, la 40 direction Est, on est au ralenti de Réaume jusqu'au pont d'étagement du CN. On meurt nombreux jusque dans Repentigny. Passer la 640. La 640 dans les deux directions, c'est lente, la montée du Mai à l'autoroute 40, 25 direction nord. On perd un peu de vitesse à partir d'Henri Bourassa. Et c'est lent jusqu'une fois traversé le pont de l'île Saint-Jean. C'est pas si mal pour Sophie Masson vers Terrebonne. À peine au ralenti, quoi, 1 km avant Vendémiaire. De l'autre côté, légèrement au ralenti jusqu'à l'autoroute 640. Et c'est libre sur la 138 Est, pont Le Gardeur vers Repentigny.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationbordelot.com.
Le mardi dès 16h, c'est Taco Tuesday à l'Échappée. Viens profiter d'un combo parfait, Taco Corona ou Tequila Corona. C'est ce qu'on appelle un accord culinaire parfait. 710 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, 450-394-1658.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre parcelle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partiel, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Jersey, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Cuthbert, Crabtree,
CFNJ, 99.1, 88.9.
La Naudière PM, santé.
Mais le plan d'action en santé et bien-être des hommes qui était en vigueur depuis 2017 ne sera pas reconduit. C'est ce qu'on a appris pour 2025-2026. Michel Arnois, il s'est entretenu pour en parler avec la fondatrice et directrice générale de l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec, Lise Bilodeau.
Madame Bilodeau, parlez-moi un peu d'abord de votre organisme.
Fondé en 1999 par un groupe de femmes. Alors, elles étaient fatiguées de voir leur homme divorcé payer des pensions alimentaires à vie. Alors, c'est ce qui a donné le souffle de la NCQ, l'Action des nouvelles conjointes et conjoints du Québec. Plus tard, on s'est tout simplement harmonisé avec tout ce qui se passait dans la société et nous avons davantage ouvert sur les conjoints de fait. Nous nous sommes davantage intéressés à tout ce qui se faisait du côté juridique. Alors, depuis 1999 que nous fonctionnons.
Madame Bilodeau, il y a un plan d'action qui avait été mis en place par le gouvernement, une stratégie, un plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes qui est en vigueur depuis 2017. Et là, on a décidé du côté du ministère de stopper ces argents-là, ces aides-là. Donc, tous les organismes qui sont touchés par le plan d'action ministériel ne seront pas reconduits dans leurs argent pour l'année 2025-2026. C'est un dur coup, ça.
Ben, c'est un deuil. Il faut pas se le cacher. Alors, vous savez, le fait que ce plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes, le gouvernement le stoppe, pour prendre votre expression, cette décision, je trouve que ça vient aggraver la détresse masculine actuellement, et Dieu seul sait qu'elle est grande, particulièrement chez les papas qui sont dans un contexte de séparation. Je dis toujours, mes papas, c'est toujours le pauvre papa, c'est toujours le soutien de la famille, puis c'est toujours lui le plus pauvre dans toute cette histoire-là. Alors, je suis vraiment, découragée pour eux. Le gouvernement doit absolument rectifier cette situation-là, déposer d'autres choses, nous parler, nous dire qu'il s'en vient autre chose. Parce qu'actuellement, vous savez, après avoir travaillé 26 ans dans l'Action Nouvelle Conjointe, Nouveau Conjoint du Québec, parce que je travaille beaucoup, beaucoup maintenant chez les jeunes papas, et c'est atroce ce qu'ils vivent, ce qu'ils rencontrent, la détresse qu'ils ont, le manque de soutien qu'ils ne trouvent pas dans notre société. Parce que c'est, il faut dire, c'est plein partout et même encore pour le petit peu qu'il y a. Alors, je pense que vraiment, là, il faut que le gouvernement se retourne de bord et puis qu'il revoie encore une fois de plus que M. Carman ce qu'il y a quelque chose de plus à faire pour les pères en difficulté et bien sûr les hommes, parce que c'est eux qui actuellement souffrent le plus. C'est eux qui ont le moins dans la société concernant les subventions. C'est eux pour lesquels on tend moins la main dans notre société. Alors moi, je pense qu'à quelque part là, il est temps de se redresser puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux.
Ce qui fait mal, d'autant plus, c'est que le financement permettait aux CIS et aux CIUS de compter sur des répondants régionaux. Ici, dans la Naudière, est-ce que les besoins sont criants, selon vous?
Absolument. Mais absolument, moi je suis de Québec, écoutez, je couvre quand même assez grand, mais les régions comme vous, vous avez besoin, puis les gens chez vous ont besoin de pignons sur rue, ont besoin de gens pour tendre la main à ces pères en détresse, parce qu'ils le sont, vous savez, ça on ignore toujours ça, on cache ça sous la couverture. Une rupture, c'est un drame aujourd'hui, c'est pas vrai que c'est à la mode que tout se fait en criant lapin. Alors les régions, plus que jamais, moi je vais plaider pour vous, les régions, plus que jamais, vous avez besoin de ce soutien du gouvernement. gouvernement. Vous avez besoin qu'on aide les peuples en difficulté, les hommes en difficulté. Puis il faut cesser de tourner la page et penser que cette partie de la pomme, monsieur, n'existe pas. Alors, je pense qu'à un moment donné, là, faut agir comme des gens du 20e siècle, là, du 21e siècle, dis-je.
Il reviendra à chaque établissement de puiser à même son enveloppe budgétaire pour financer leurs efforts. Pensez-vous réussir à faire changer le cap du gouvernement?
Ouf, vous me posez toute une question. Écoutez, je ne sais pas. Peut-être que M. Carman aura une oreille plus attentive et un regard plus sensible à la détresse des hommes. Est-ce qu'en allant chercher les hauts placés du gouvernement, on pourra davantage leur démontrer que ça existe, la détresse des hommes? Je ne voudrais pas rentrer dans tout ce qui se passe au niveau des féminicides parce que ça me tourne à l'envers et ça me brise. Mais je pense que parfois, on pourrait peut-être jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on en arrive là? Toutes ces questions-là devraient se poser. Et puis, en bas, avoir la réponse, ben il faut aider, il faut s'ouvrir davantage, il faut tout simplement offrir à l'homme en difficulté des moyens pour s'en sortir. Vous savez que l'homme parle pas généralement, mais non seulement il parle pas, mais il n'y a rien. Alors, on fait quoi pour l'aider? Alors, je pense qu'il faut absolument que les gens se dressent et demandent au gouvernement de revenir sur sa décision.
C'est une nouvelle qui est triste à la veille de la fête des Pères, comme ça.
Triste, vous dites? C'est un horreur. Ça m'a touché profondément. Je vous dirais que ça m'a tourné complètement. Je me disais, Dieu seul sait que je suis placée, monsieur, pour vous dire que je ne parle pas à travers mon chapeau après 26 ans de service. Et je sais que les besoins sont là, ils sont criants. C'est pas vrai qu'on va tourner la page, puis non, il n'y a rien pour les hommes, puis ils n'en ont pas besoin, puis ils sont faits forts. Ce sont des humains avant tout, comme tout le monde. Ils ont besoin d'aide et je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là.
En terminant, trouvez-vous que le gouvernement frappe aux mauvaises places?
À qui le dites-vous? Étant concerné, bien sûr. Effectivement, tristement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le gouvernement lui-même souffre de quelque chose? On pourrait se poser la question.
Lanaudière PM, politique municipale.
Du côté de la ville de Repentigny, on investit actuellement plus de 50 millions de dollars. C'est pour des travaux de réfection du réseau routier et de certaines infrastructures de la ville. On parle que ces travaux sont rendus nécessaires afin de conserver les acquis. Et le maire Nicolas Dufour s'est entretenu avec notre collègue Régent Turgeon.
Oui, encore cette année, c'est 51,2 millions qu'on investit pour refaire nos infrastructures routières et d'aqueduc. Là, c'est un record en matière d'investissement pour la municipalité. Il y a beaucoup de grands chantiers, notamment la rue Notre-Dame. On est en train de terminer dans les dernières portions. On refait la rue Clémenceau, on fait le pavage sur le boulevard Pierre-Legardeur. Donc, il va y avoir à peu près une dizaine de chantiers. On essaie de s'assurer de minimiser les impacts pour les citoyens là du trafic et puis des déviations de route. Mais c'était des investissements qui étaient nécessaires. Malheureusement, dans les dernières années, on a sous-investi dans le maintien de nos actifs. Puis c'est pas juste à Repentigny, c'est partout au Québec. Okay. Mais nous, on a vraiment viré la situation de bord. 91% de notre plan quinquennal d'investissement pour cette année est dédié au maintien d'actifs. Donc, on n'est peut-être pas une administration qui coupe des rubans pour des nouveaux projets. Nous, notre priorité, c'est surtout de s'assurer de réparer la maison avant de penser de l'agrandir.
Donc, c'est des mises à niveau qui s'imposaient.
Ah, totalement. Et puis, on le voit là, notamment au niveau routier, là, on était à l'écoute de la population. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un plan quinquennal pour se donner une vision sur 5 ans des investissements à faire. Je le réitère, là, c'est pour chacune de nos années, le plus de 80% des investissements qui s'en va dans le maintien des actifs. Parce que si on veut s'assurer de continuer à développer notre ville, si on veut s'assurer que les gens aient une fluidité dans leur mobilité, ben il faut s'assurer d'avoir des routes là, qui sont en état et puis d'un réseau d'aqueduc qui peut supporter l'arrivée de nouveaux citoyens.
La rue Notre-Dame, parce que c'est probablement l'artère, une des artères majeures, a été longtemps considérée comme une espèce de route provinciale, régionale, et peut-être que le financement de Québec venait pas, n'était pas rattaché au projet de rénovation qu'on avait là-dessus. C'était réglé, cette situation-là?
Non, malheureusement, je sais que ma prédécesseure, Mme Deschamps, s'est battue très longtemps là, contre le gouvernement du Québec pour qu'on aide les investissements nécessaires et qu'ils payent leur portion de la facture. À un moment donné, voyant qu'elle faisait face à un mur, elle a commencé elle-même à rénover la rue Notre-Dame, à même les deniers des citoyens de Repentigny. Puis on on a poursuivi dans la même logique. On interpelle régulièrement le gouvernement du Québec, mais on le voit année après année, leur désengagement envers le maintien des réseaux d'infrastructures, autant au niveau des rues que des aqueducs. On le voit encore, là, le gouvernement fédéral, pas plus tard que l'année dernière, nous a coupé dans le programme de taxes d'essence, là, donc qui nous permet de faire des programmes de rénovation de rues. Le gouvernement du Québec coupe les transferts aux municipalités d'année en année. Et là, ben, pendant ce temps-là, le problème reste là. Et malheureusement, c'est les citoyens qui sont obligés de payer la facture.
On s'inquiète de plus en plus des changements climatiques et justement leurs effets sur les infrastructures, les pluies diluviennes. On a déjà parlé, on n'est pas à l'abri de pluies torrentielles comme c'était le cas l'an dernier ou même il y a deux ans. Faut se préparer à ça.
Exactement. Puis vous savez, juste pour refaire l'ensemble du réseau d'aqueducs et de rues à Repentigny, là, on a pour 1 milliard d'investissements nécessaires. Alors là, on a beau mettre 50 millions cette année, puis encore là, dans les prochaines années, puis qu'on augmente, ça va être difficile à un moment donné de réussir à rattraper la courbe tant aussi longtemps qu'on n'a pas de l'aide de Québec et d'Ottawa. Malgré tout, on a des nouvelles, on dit des nouvelles technologies et pourtant on retourne à l'ancienne dans nos réfections de rue. Puis je vais vous donner un exemple. On revient avec le concept de noues végétalisées. Quiconque a vécu en campagne sait que les agriculteurs ont des noues, donc des petites dénivellations là en avant de leur terrain là pour absorber l'eau et favoriser un écoulement. Donc on revient avec ces bonnes vieilles technologies là. On va justement bientôt faire notre première rue là, d'Argenson avec des noues végétalisées et on investit beaucoup dans le maintien de nos actifs justement pour éviter d'autres problématiques comme on a connu l'année dernière le 9 août.
Les automobilistes, là, les citoyens de Repentigny devront s'armer de patience encore et de prudence devant ces travaux-là.
Ouais, ben les secteurs qui vont être les plus complexes, là, c'est la rue Notre-Dame et puis le boulevard Pierre-Legardeur. Le restant sont des petites rues collectrices, donc l'impact peut être un peu moins, peut-être plus localisé là, auprès des gens qui vivent sur ces rues-là, comme par exemple Clémenceau. Ceci dit, notre équipe au génie là, puis aux infrastructures travaille très fort avec le service de police pour s'assurer qu'il y ait le moins d'impact possible là, et de trafic causé par nos travaux. Malheureusement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux, mais on pense qu'il était nécessaire et urgent de rénover les rues là, qui sont sélectionnées pour cette année. Donc, si les citoyens ont des propositions par rapport à des problématiques qui vivent pour le trafic, là, je les invite à contacter l'hôtel de ville, puis on peut toujours voir pour l'amélioration.
Nicolas Dufour est le maire de Repentigny. Dans un instant, François Morin aux nouvelles. Et ensuite, François va s'entretenir avec le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Sibi Flamand, qui accueille favorablement le plan stratégique autochtone de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Mais avant tout ça, un petit tour sur les routes. La 25 direction nord, c'est très compliqué. Depuis presque l'échangeur en jour, prend un peu de vitesse, là, passé la 440 et on est nombreux jusqu'à la hauteur de la 337 à Terrebonne. Vers Terrebonne, par Sophie Masson, c'est au ralenti à partir d'Émile-Île, de l'autre côté jusqu'à la 640, mais on demeure nombreux jusqu'au chemin Sainte-Marie. 40 Est, c'est lent de Bourget, jusqu'à l'autoroute 640, secteur Repentigny aussi, probablement à cause d'averses dans ce secteur-là. On est au ralenti de Brien, presque jusqu'à la sortie 106 qui mène à l'Épiphanie, l'Assomption. Et sinon, 138 Est vers Repentigny, pont Le Gardeur, ça circule bien présentement. Parlant d'averses, on est en veille d'orages violents pour tous les secteurs de la région. Les orages jusqu'à 19h ce soir pourraient créer, en fait, de la pluie évidemment, mais aussi des vents rafales jusqu'à 90 km/h, de la grêle. Et évidemment, beaucoup de précipitations, donc on surveille ça. Quoiqu'actuellement, le pire semble derrière nous, il y a quand même des cellules qui se recréent, souvent des averses très fortes. Et donc, ce risque d'orage violent, c'est environ jusqu'à 19h ce soir.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Pour entretenir vos prothèses, vous devez les faire tremper à tous les jours dans une solution de trempage. Prenez bien soin de lire les instructions de la solution que vous employez et de suivre les conseils d'usage du fabricant. Dans la majeure partie du temps, si vous optez pour les pastilles, sachez que l'eau et les pastilles doivent être changées quotidiennement dans votre boîtier. Tandis que si vous utilisez une solution en poudre, vous changez l'eau et la poudre à chaque semaine. Bien sûr, avant de les faire tremper, il est bien important de les nettoyer à la brosse.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Matantroulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croc, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
On accueille François Morin pour le bulletin d'information régionale. Salut François.
Bonne fin d'après-midi.
C'est rare qu'on est là tous les deux ensemble à cette heure-ci.
Je pense qu'on va faire laminer l'événement.
Pourquoi pas? François, grosse journée à l'information. D'abord, on va parler de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui veut s'ouvrir aux Premières Nations. Ouais. On a même une réaction du chef de Manawan.
C'est une bonne nouvelle potentielle, effectivement. Le chef de Manawan, Sibi Flamand, qui accueille favorablement le plan stratégique autochtone de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui vise justement une ouverture de l'établissement aux communautés. Alors, le chef Flamand est convaincu qu'un dialogue soutenu pavera la voie à la réalisation des objectifs du plan.
Je pense que le plan que l'Université du Québec de Trois-Rivières a déposé nécessite qu'il y ait des dialogues, des communications avec les communautés des Premières Nations Atikamekw ou bien d'autres communautés aux alentours. Puis je pense que cette université-là se trouve sur le Nidatskinan, puis ça devrait également rejoindre l'ensemble de la Nation Atikamekw.
Du côté de Repentigny, il y a un grand déménagement prévu pour le CLSC meilleur.
CFNJ Nouvelle vous en parlait vendredi et c'est confirmé par le 6 de la Naudière. Le CLSC meilleur de Repentigny déménage chez Pénat au centre à nous, le plus important centre communautaire au Canada. Et c'est donc au 50 de la rue Thouin à Repentigny. À compter du 11 juin, les équipes des services courants vont y accueillir les usagers afin d'y offrir divers soins de santé et services sociaux sur rendez-vous. Et d'ici novembre, il y a d'autres services qui seront offerts et grâce à l'agrandissement du centre à nous, de nouveaux locaux ont été aménagés et les espaces ont été réorganisés sur 4 étages afin de mieux répondre aux besoins grandissants de la population dans ce secteur de la région.
Et on sait que c'est un secteur qui est justement
densément peuplé.
Absolument densément peuplé. C'est une très, très bonne nouvelle donc pour les résidentes et résidents de Repentigny. À un peu plus d'un an, des élections provinciales, François, il y a le député provincial de Joliette, François Saint-Louis, qui vient à la défense du bilan de son gouvernement.
C'est parce que la dernière session a vraiment pas été facile pour le gouvernement.
Ça, c'est un euphémisme.
Et Dieu sait qu'en santé, ça n'a pas été facile non plus, les décisions qui ont été prises. Alors, le député provincial de Joliette, François Saint-Louis, qui se porte à la défense de son gouvernement au sujet des compressions en santé. M. Saint-Louis martèle qu'il est tout à fait normal qu'on demande aux établissements de respecter leur budget. Sauf que lorsqu'on lui dit que le fait de ne pas combler des postes malgré les besoins risque d'avoir des conséquences sur les services directs, voici ce que répond le député Saint-Louis.
En fait, je pense qu'il faut être prudent. Il y a eu des changements. Il y a eu des postes qui ont été abolis, mais il y a eu création de postes aussi. Donc, il faut regarder, je pense, la ligne du bas. L'objectif étant d'avoir des postes à temps plein. Je suis pas à la gestion des ressources humaines du CIS, donc je m'avancerai pas plus que ça. Mais comme je vous dis, je pense appel à la prudence. Ça, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient assis à la maison à attendre qu'on les appelle.
Parmi justement les dossiers, François, qui font couler beaucoup d'encre et beaucoup parler, c'est le dossier des logements. Il y a des locataires qui sont mécontents, qui continuent leur tournée des municipalités.
La mobilisation créée par l'escouade de Logement Sain de la Naudière qui fait encore sentir sa présence. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a des locataires qui ont exprimé leur indignation face à l'inaction des gouvernements sur la crise du logement et le fléau des logements insalubres dans la région. Les manifestants ont d'abord perturbé la séance du conseil municipal du côté de Sainte-Mélanie. Ils ont exprimé leur exaspération face à ce qu'ils qualifient de conditions de vie qui mettent en péril la santé et la sécurité des locataires. La mobilisation s'est poursuivie par une deuxième interruption, cette fois au conseil municipal de Saint-Jean-de-Mata. Alors, les locataires mécontents affirment que des élus sont propriétaires de parcs immobiliers et que dans leur municipalité, il n'y a aucune aide apportée aux locataires. Et on rappelle qu'il y a une pétition qui est en cours pour exiger des actions concrètes.
Et enfin, on parle d'une campagne à Saint-Félix-de-Valois qui fait beaucoup réagir, qui est comique à part de ça. Poulais-tu ralentir? Ce sont des affiches qu'on voit maintenant à Saint-Félix-de-Valois pour annoncer une baisse de la limite de la vitesse dans le village de Saint-Félix-de-Valois.
Et sans jeu de mots, Saint-Félix-de-Valois prend le pas de plusieurs municipalités où on a déjà appliqué cette mesure-là. Donc, on établit à 40 km/h la limite de vitesse sur les rues résidentielles dans la foulée d'un règlement qui a été adopté en février. C'est une décision, on vient de le mentionner, qui est appuyée par une campagne de sensibilisation. Et le changement de règlement s'inscrit évidemment dans le cadre de la politique d'apaisement de la circulation, suivant l'analyse de plusieurs demandes citoyennes au comité de sécurité routière. Donc, ça vient de la population. Et selon des données issues notamment de l'Organisation mondiale de la santé, à 50 km/h, lorsqu'un piéton est heurté, il a environ de 20 à 30% de chances de mourir. Et à 40 km/h, le risque tombe à 10 % au moins. Et il faut dire aussi que la Sûreté du Québec est mobilisée à titre de service de police du territoire et va veiller à appliquer cette nouvelle réglementation.
Oui, parce que c'est pas tout d'avoir une réglementation. Évidemment, il faut la respecter, il faut la faire appliquer.
Et il faut être coercitif parfois parce qu'il y a des gens qui comprennent rien.
Ah oui? On a des noms en tête, c'est bizarre. Merci François.
Et ça complète d'autres nouvelles à CFNJ.net.
CFNJ 99.1
La Naudière PM, Première Nation.
Alors, c'est le temps de joindre le chef de la communauté de Manawan, Sibi Flamand. Kwekwe.
Kwekwe.
Bonne nouvelle potentielle, en tout cas pour la communauté de Manawan, Sibi Flamand. La semaine dernière, l'UQTR, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a lancé son plan d'action autochtone pour quelques années. Comment on accueille justement cette nouvelle-là?
Eh bien, c'est quand même une bonne nouvelle, une bonne initiative que l'Université du Québec de Trois-Rivières a entrepris pour pouvoir développer des relations avec les communautés des Premières Nations. Je pense que c'est une initiative qui marque quand même l'importance de rétablir ces relations, comme je pourrais appeler, selon le principe de la réconciliation. Puis je sais qu'il y a d'autres universités qui ont adopté cette même politique, je dirais, pour rejoindre les communautés autochtones notamment. Puis c'est une bonne initiative aussi pour s'enligner la réconciliation vers l'éducation.
Bon, justement, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui, de toute évidence, veut ouvrir ses portes aux communautés autochtones, et en plus, dans le respect des traditions ancestrales, dans le respect même du principe de Joyce.
Effectivement, c'est une bonne nouvelle en soi de mettre de l'avant les orientations du principe de Joyce. Je pense que c'est nécessaire de travailler avec ce cadre-là pour pouvoir apporter des changements significatifs dans la conscience collective québécoise, canadienne sur les réalités des peuples autochtones. Puis c'est ce que nous recommandions lorsque nous avions déposé le mémoire du principe de Joyce au gouvernement du Québec.
Et pour les gens qui nous écoutent, c'est important là, de préciser que si les portes de l'université sont ouvertes aux Autochtones, ça va se faire également dans le respect de la culture, c'est-à-dire qu'on va ouvrir l'enseignement supérieur, mais selon les principes, là, en respectant les principes des communautés, les principes culturels.
Effectivement, puis c'est nécessaire d'aborder cette question-là parce qu'on a vécu puis on a vu des situations tant dans l'Ouest canadien là, en ce qui concerne l'appropriation culturelle ou bien de l'autoproclamation autochtone, je dirais, parce que il y a dans certaines provinces, il y a eu des problématiques comme quoi des non-autochtones qui s'autodéclaraient autochtones puis qui recevaient des bourses également qui auraient pu aider les étudiants autochtones. Puis ça crée une problématique. Puis moi, je voudrais que cette université travaille en collégialité avec les communautés autochtones pour éviter ce genre de situation.
Alors, c'est donc dire que le dialogue doit se poursuivre. On dit souvent que le diable est dans les détails.
Effectivement, il faut travailler ensemble. Puis je pense que le plan que l'Université du Québec de Trois-Rivières a déposé nécessite qu'il y ait des dialogues, des communications avec les communautés des Premières Nations Atikamekw ou bien d'autres communautés aux alentours. Puis je pense que cette université-là se trouve sur le Nitatskinan, puis ça devrait également rejoindre l'ensemble de la nation Atikamekw.
Alors, on revient là-dessus. Potentiellement, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes de la communauté manawan qui pourraient éventuellement avoir accès à l'enseignement supérieur.
Effectivement.
Un autre dossier, c'est celui du régime forestier qui impacte les communautés autochtones, en tout cas plusieurs communautés autochtones, parce que les forestières œuvrent justement sur des territoires ancestraux. Et là, Québec qui a décidé de faire marche arrière.
C'est un sujet quand même croustillant. C'est un sujet qui est toujours d'actualité chez les Premières Nations. Puis on vit dans la forêt, dans le territoire, puis nous vivons des impacts directs sur la foresterie, puis notamment sur le projet de nouveau régime qui est en train d'être étudié comme projet de loi. Je pense qu'on peut exiger que les Premières Nations soient présent dans la rédaction de tout projet de loi qui concerne leur territoire ancestral. Mais on sait que le Québec n'est pas encore rendu là, mais moi, je dirais que c'est nécessaire que ce gouvernement-là se dit pragmatique, proactif dans ses relations avec les Premières Nations qui veut axer son gouvernement dans l'aspect économique, mais je pense qu'il faut également impliquer directement les Premières Nations pour travailler sur un projet de loi qui répond aux valeurs, aux principes et aux fondements des Premières Nations. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce qu'on voit, c'est une orientation qui est axée seulement sur de simples éléments qui concernent les droits autochtones, mais qui ne va pas en profondeur.
Parce qu'on laisse beaucoup de place aux forestières, à l'industrie forestière, sans vraiment consulter les communautés. La ministre Maïté Blanchette-Vézina s'est engagée justement à faire ce travail-là au cours des prochaines semaines.
Mm-hmm. C'est beau d'inscrire certains articles de loi sur les questions autochtones, mais je pense qu'on serait rendu à parler d'une relation d'égal à égal de nation à nation où les Premières Nations peuvent également co-écrire, co-rédiger, co-développer, co-gérer même la forêt. C'est ce que les Premières Nations réclament, demandent, puis c'est dans nos droits en tant que peuple autochtone de faire ces revendications-là.
Chef Sipi Flamand, Miigwetch.
Miigwetch.
Dans un instant, Jacques Plante.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo!
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 8 juin. Gagne 400 au jeu de la ligne DG. Chantal Petit de Chersey, carte achetée au marché Chersey. Il a remporté 4 000 au jeu de la carte pleine. André-René La Tendresse de Saint-Gabriel, grâce à sa carte procurée au Dollar à tout. Et 600 au jeu de la carte pleine de la deuxième chance ont été remis à Christine Sarrazin de Saint-Jérôme. Elle s'est procurée sa carte chanceuse au marché métro Saint-Gabriel. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 à gagner avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes d'Issyper Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Envie de vivre une expérience culinaire? Découvrez le bistrot La Cache du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. Sur le menu, vous retrouverez des plats savoureux conçus avec des produits de chez nous soigneusement choisis et une belle sélection de bières, vins et cocktails. En semaine, optez pour le menu du jour et profitez d'un festin à petit prix. 3 choix de repas à partir de 18 $ avec potage et dessert inclus. Le week-end, débutez votre journée avec un bon déjeuner entre 8h et 11h30. Réservez dès maintenant au bistrot La Cache du Lac au 450-271-8217 ou en ligne à cachedulac.com.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, proprio direct.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Jacques Plante, encore un dépassement de coûts au gouvernement, cette fois-là au fédéral.
Ah, oui,
on va t'allumer, tiens.
Oui, merci. J'allais te dire, non pas bonjour, mais allô, avec ce qui se passe. C'est, comme tu parlais de dépassement de coûts, c'est la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, qui a déposé son rapport. On a ça du côté d'Ottawa, puis on a ça du côté de Québec aussi.
Ah oui, absolument.
Il y a quelqu'un qui fait une vérification des mouvements, des gestes posés par le gouvernement.
Et par chance?
C'est une vérification qui alimente souvent nous, les journalistes, parce qu'en bout de ligne, ça change pas grand-chose. Parce que d'une année à l'autre, Nicolas, quand on dépose ce genre de rapport-là, on s'aperçoit pas beaucoup de changements. Puis quand les journalistes posent des questions dans un scrum politique, on patine.
Ben, de toute façon, genre, quand on apprend ça, il est comme un peu trop tard.
C'est rendu que la fracture est là, hein?
Ben, voilà.
C'est ça. Et, bon, j'aurais pu parler de plusieurs sujets, là, mais avec le temps qu'on a, comme on en a parlé il y a pas tellement longtemps de nos avions, nos F-18, de l'armée, comment elle est mal équipée, parce que l'équipement est désuet carrément, et que notre bon PM, Carney, vient de nous dire qu'on va pogner le 2%, là, puis on va même augmenter ça, puis on va les équiper au maximum.
Ben là, avec le coût qui vient de monter, il va peut-être pogner le 2% plus facilement.
Ben, je sais pas comment il va arriver à calculer. Pour faire un peu d'histoire, à l'époque du gouvernement Trudeau, on avait en 2022, on s'était entendu pour acheter 88 avions de chasse, les fameux CF-35. 19 milliards. Mm-hmm. Ça, c'était le coût. Le premier appareil devait être livré en 2026, donc en quelque part l'année prochaine, et le reste allait suivre pour d'ici 2033. Avec la VG, on apprend que là, c'est pas 19 milliards, c'est 27,7 milliards. Ça veut dire que c'est pas loin de 30, là.
Ben ouais, absolument.
Juste le temps que j'en parle, ça augmente, là. Et il faudra ajouter à ça, si on veut que les appareils puissent atterrir autant du côté de Bagotville que du côté de l'Ouest canadien, il faut aussi des infrastructures qui ne sont pas prêtes actuellement, qui ont été retardées. Ce qui est un petit peu choquant là-dedans, Nicolas, c'est que dans ce qu'elle a examiné comme dossier, la vérificatrice générale, elle a dit l'estimation des coûts du projet qui a été présenté en 2022 par notre belle défense nationale, ça reposait sur des données obsolètes qui dataient de 2019. On le sait que dans ce domaine-là, ça change vite, là.
Mais qu'est-ce qu'il y a eu en 2020? Évidemment, la pandémie qui a fait gonfler tous les prix dans tous les domaines.
Exactement.
Donc, pourquoi qu'en 2022, on s'est fié sur des chiffres d'avant la pandémie pour faire un budget?
Tu sais, même avant de faire la présentation... Puis là, encore là, je parle de la défense nationale qui font leur présentation. Je dis au gouvernement, ça peut impliquer les fonctionnaires. Mais encore là, il y a quelqu'un qui dort sa switch.
Non, c'est clair.
Parce que, tu sais, quelqu'un te parle d'un chiffre. Quand tu joues avec des milliards, là, j'avoue que c'est pas leur poche, c'est la nôtre, là. Ils s'en foutent un peu. Mais il me semble que tu poses une question. Tu sais, les données que vous venez de nous lire, ça remonte à quand? 2019.
Ben, ouais. Ça marche pas, hein?
2022, est-ce qu'on pourrait pas regarder pour rafraîchir ça?
Ben, c'est ça, je te dis. C'est qu'une fois que la vérificatrice fait son travail, aujourd'hui, en 2025, ben, il est trop tard. Alors qu'à l'époque, si quelqu'un avait levé le drapeau jaune là, en disant, ben, vos données sont pas bonnes,
exact.
Retournez tout de suite à la table à dessin.
C'est un peu ce que je te disais tantôt, là. Je te parlais de Bagotville. Ça, c'est chez nous au Québec. Et l'autre base, c'est Cold Lake. C'est du côté de l'Alberta. Il faut organiser, là, des installations pour pouvoir accueillir les appareils. C'est très technique, là. On dit que si jamais on commence à nous livrer des appareils, Ils ont dit, ben là, en attendant qu'on puisse rendre les deux bases correctes, on va essayer de faire des installations à quelque part de fortune.
OK.
Ça aussi, ça va coûter de l'argent.
Oui, absolument.
Tu sais, fait que la facture, elle va aller jusqu'où, finalement? C'est pas tout, Nicolas. Pénurie de pilotes. On va acheter des avions, puis on sait même pas si on va avoir les pilotes pour les piloter.
Ah, voyons donc.
Hein? Là, ça prendrait, je sais pas. Là, c'est pas de l'IA, de l'intelligence artificielle, là. C'est de l'intelligence absente. En quelque part, là.
Donc, on va acheter des avions beaucoup plus chers que ce qu'on aurait payé.
Puis des avions qui performent, là.
Qui performent, mais on n'aura personne pour les piloter.
Ben, c'est ça qu'on dit pour l'instant. Il va y avoir pénurie de pilotes. C'est une histoire là, vraiment incroyable. À l'été 2010, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait annoncé l'achat de 65 appareils F-35. Les conservateurs avaient fait ça sans appel d'offres, ce qui avait un peu... On avait dit à l'époque que ça va coûter 9 milliards.
OK.
Ben oui. Sauf que on a appris un peu de temps après, calcul fait, j'imagine que la VG était passée là-dedans, en tout cas la personne qui faisait la vérification, et là on a dit, ça va tourner autour de 30 milliards. C'est pour ça que je le donnais tantôt initialement, le 27,7, là,
okay.
On va péter ça encore.
On avait levé la main à l'époque pour dire, ça va coûter 30 milliards.
Au moins 30 milliards. Et là, ce qui est arrivé, c'est que quand un certain Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, lui
il avait... Non, ça ne coûtera pas 30 milliards.
Il avait promis d'annuler ce contrat-là, sauf qu'à la lecture du contrat, tu peux l'annuler, mais il y a des pénalités. Fait que là, on dit, on fait quoi? Là, ils ont dit, bon, on va acheter peut-être des avions bombardiers de d'autres compagnies. On a pensé à ça et finalement, c'est tombé lettre perdue parce que là, est arrivé Trump à la Maison-Blanche, est arrivé plein de choses. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge et là, ce qu'on apprend, c'est que le Canada a déjà payé 16 des 88 avions qui ont été commandés. Les 72 autres, on va voir ce qui va se passer avec ça, quelle sera la décision. Et la cerise sur le sundae, c'est que le logiciel dans les avions pour les informations de vol et de mission, ça appartient aux Américains. Bon. Alors, tu te promènes avec ton F-35 au Canada, puis ils peuvent savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais.
Donc, si on entre en guerre avec les États-Unis,
tu pensais, toi, la stratégie. Et je termine avec ceci. Pour ceux et celles qui nous écoutaient, vous êtes comme nous, des contribuables.
Oui.
Alors voilà, c'est comme ça que votre argent s'envole.
Merci, Jacques.
Salut.
L'anneau d'IRPM. Culturel.
En compagnie de Sabrina Payton du Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Bonjour Sabrina.
Quoi, bonjour.
Comment ça va?
Ça va super bien.
Sabrina, il y a vraiment un grand événement qui s'en vient le 21 juin dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. En fait, depuis plusieurs années, le CAL ici à Joliette fait un événement fantastique de cette journée-là. Parle-nous de ce qui va se passer le 21 juin.
Donc, c'est un événement festif pour toute la famille, pour tout le monde. On invite la population, la région, même il y a des gens qui viennent du Lac-Saint-Jean même pour cet événement-là. C'est vraiment cool.
Du monde de partout.
Ouais. Dans le fond, à partir de 5 heures, le site ouvre. Il va y avoir des ateliers pour les enfants, des ateliers de créativité, aussi des ateliers d'artisanat traditionnel, des jeux gonflables, de la nourriture traditionnelle. Il y a même des petites filles qui vont avoir un stand de limonade parce qu'elles veulent commencer à avoir de l'entrepreneurship.
Wow!
Une quinzaine d'artisans qui vont être là avec des kiosques d'artisanat autochtones. Et à 18 heures, là, c'est le show qui commence. Donc, il va y avoir les Eagle River Singers, qui c'est un groupe de tambour traditionnel accompagné de danseurs. Ensuite, Régis Nikwe, qui est un chanteur folk de Manoan,
ouais,
qui vient
chez
juste
nous
de sortir un album. Fait que c'est un de ses premiers shows. Ensuite, on a Anaknid, qui est une OG Cree, qui fait de la musique plus électropop. Et on finit avec Q052, qui est un Mi'kmaq, et que ça fait des années que j'essaie de l'avoir, mais normalement, il est tout le temps à pêche au saumon à ce temps-ci de l'année.
Et là, cette année, il va être là.
Mais là, je l'ai convaincu. Et ce qui est vraiment cool, c'est que son album, lui, sort au mois de septembre, donc il fait le seul show en primeur pour nous à Joliette.
Alors ça, c'est vraiment pour tout le monde.
C'est pour tout le monde.
Évidemment, autochtones, non-autochtones, tout le monde est invité à participer à la fête.
Tout le monde est invité à se rassembler. Wasgavidan en Atskamek, ça veut dire rapprochons-nous.
Donc, hein.
Puis c'est vraiment ça qu'on veut faire cette journée-là, c'est d'inviter les gens à venir, oui, connaître les différentes cultures autochtones, mais aussi de prendre un moment pour échanger, apprendre à se connaître, partager des choses ensemble.
Parce que c'est ça le but, finalement.
C'est ça le but, c'est de se rapprocher.
Quand on se connaît, on se comprend mieux. Le CAL, parle-nous un petit peu du Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Quelle est la principale principales missions du centre d'action, du centre d'amitié autochtone?
La mission du CAL, c'est d'offrir des services, que ce soit des services en éducation pour les aînés, pour les jeunes, des services de santé, des services de soins, mais pour les Autochtones vivants ou de passage en milieu urbain. Donc, ça peut être des gens qui habitent à Joliette ou à Repentigny, puis on fait l'annonce au complet, hein. Mm-hmm. Ou ça peut être des gens qui sont de passage, mais qui passent chercher des services au CAL. Puis, tu sais, il n'y a pas juste des Atikamekw dans la région ici, hein. Il y a des Cris, il y a des Innus, il y a des Inuits. Donc, tu sais, c'est vraiment multi et c'est vraiment un lieu de rencontre pour toutes ces personnes-là. Puis on est rendu 40 employés. Donc, wow. On a une offre de services qui va de la santé à la clinique médicale, à des services d'intervention, des services juridiques, du développement culturel.
C'est incroyable. Et il y a évidemment le superbe projet du nouveau CAL qui va bientôt être construit. Ça aussi, j'imagine que c'est un projet hyper porteur pour l'organisme.
C'est un projet extrêmement porteur. On travaille là-dessus, ça fait une dizaine d'années. Mais tu sais, ça va être vraiment un projet vraiment innovant parce que autant qu'il va avoir des logements temporaire, qui va avoir un CPE, mais le CPE va être avec des aînés, il va avoir une galerie d'art, ben en fait, c'est plus un centre d'art, une boutique, des salles, fait que ça peut être des salles pour des parties d'employés, pour des conférences et tout ça, en plus de tous les services qu'on offre déjà dans son amitié.
Je vois qu'il y a plusieurs volets qui sont touchés quand on parle de partage entre générations, parce que c'est important pour les Autochtones.
Tout à fait.
On va pouvoir donc, dans cette garderie-là, échanger avec des personnes, avec les aînés. C'est un partage tout à fait naturel. On devrait s'inspirer de ça, il me semble, aussi dans la société en général, là. Mais c'est des projets hyper porteurs que j'entends là, du côté du CAL.
Les aînés sont porteurs de tradition, mais les enfants les gardent jeunes.
Oui, absolument. Donc hein, les deux s'entraident. Sabrina Payton, pour revenir à la journée du 21 juin, on rappelle aux gens, donc pour les petits comme les grands, ça se passe au centre-ville de Joliette, Place Bourget. On occupe la place à partir de quelle heure?
À partir de 5 heures, le site ouvre. Donc, les enfants vont pouvoir commencer à s'amuser à 5 heures. Mm-hmm. Et le spectacle débute à 18 heures.
Alors, on s'y rend. On a commandé le beau temps. Et on va tous fêter ensemble.
Il va faire beau. Ouais. Venez en grand nombre. Ça va être fantastique.
Pour la Journée nationale des peuples autochtones. Merci, Sabrina Payton.
Miigwech.
À bientôt. C'était la Nodière PM. Merci à tous les collaborateurs. François Saint-Louis, député de Joliette à l'Assemblée nationale. Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Siby Flamand, chef de Manawan. François Morin, qui était là en information régionale. Jacques Plante et son commentaire. Lise Bilodeau, directrice générale de l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Et Sabrina Payton, à qui on vient de parler, du Centre d'amitié autochtone de la Nodière. Ici Nicolas Bellemare. Restez là dans un instant, c'est le 5 à 7 trad. Vous retrouverez Michel Arnois à la barre de la Nodière PM demain à compter de 16h. Et ne manquez pas aussi mes collègues Justin Lapierre, Diane Lafrance, la Nodière AM dès 7h25. Demain matin,